Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec le titre. Le président indonésien Joko Widodo ouvrira le congrès de l'Association des cours constitutionnels asiatiques. Le ministre de la Défense de l'Indonésie et celui des Philippines ont convenu d'intensifier la coopération. Le gouvernement indonésien doit être plus assertif de résoudre le cas de la prise d'otage de citoyens indonésiens. Deux avions F-16 de l'armée aérienne indonésienne ont reposé ces 130 Hercules de la Malaisie sur Natuna. L'observatoire remplaçant celui de Bosca sera construit à Nusa Tenggara Est. Chertami nous présente maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo ouvrira le congrès de l'Association des cours concessionnels asiatiques 2016 qui aura lieu à Bali en début août 2016, a déclaré le président de la Cour concessionnelle, M. Arif Hidayat, lundi à Jakarta. Selon lui, le thème du congrès de l'Association des cours concessionnels asiatiques et l'institution similaire en Asie, tenu en août 2016, est la promotion et la protection des droits concessionnels des citoyens. À cette occasion, on va élire le nouvel président de l'association. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré mardi à Jakarta que le gouvernement indonésien, à travers le ministère indonésien de la Défense, a convenu avec le ministère de la Défense des Philippines dans la manipulation de l'équipage en otage des citoyens indonésiens aux Philippines. Selon la ministre Retno Marsudi, les deux ministres de la Défense se sont réunis dimanche pour accorder la coopération de sauvetage des otages et de prévention de la prise d'otages à l'avenir.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan.
La ministre indonésienne de la Défense a mené une réunion avec son homologue des Philippines le 26 juin 2016. La visite du ministre de la Défense était essentiellement à intensifier la coopération de la Défense pour sauvegarder la navigation des navires de l'Indonésie et des Philippines passant sur les eaux de Sulu. Les deux coopérations accordées sont actuellement de sauver les otages et la coopération pour empêcher la prise d'otages à l'avenir. Selon Mme Retno Marsudi, le gouvernement indonésien priorise la sécurité des citoyens indonésiens qui ont été pris en otage dans les eaux philippines, ainsi que le gouvernement indonésien continue d'établir une communication avec les différentes parties pour assurer la sécurité des otages et les libérer. Le membre de la Commission 1 du Parlement, M. Sharif Hassan, a déclaré récemment à Jakarta, a encouragé le gouvernement indonésien d'être plus assertif dans le traitement des cas de ressortissants indonésiens en otage par le groupe terroriste Abu Sayyaf dans les eaux philippines il y a quelque temps. Selon lui, outre pour sauver les citoyens indonésiens, le gouvernement doit améliorer des efforts pour sécuriser les eaux territoriales et de rappeler à la société civile d'être prudent dan Lezo Kisong Suzet Ang Otas.
Saya pikir Indonesia harus lebih tegas. Wacana untuk operasi bersama itu harus jangan hanya wacana.
Japan's Indonesia doit être plus assertif. Le plan de l'opération conjointe doit être clarifié. La deuxième, l'opération dans nos zones doit encore être améliorée. Et il faut rappeler aux citoyens qui voyagent dans cette région, là-bas n'est pas propice, y compris une entreprise. Selon Sharif Hassan, il soutient si le gouvernement va choisir de suspendre la livraison des marchandises logistiques à travers les eaux de cette région. Ceci pour assurer la sécurité de la vie des citoyens indonésiens causée par la menace d'otages et les enlèvements commis par des terroristes. Il a également rappelé que le gouvernement indonésien n'a pas choisi la voie de compromis dans la résolution de l'otage. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le chef de service de l'information de l'armée aérienne indonésienne, ou TNI AU, le général de brigade aérienne, M. Wiko Sofyan, a déclaré mardi que le gouvernement de l'Indonésie et la Malaisie devraient immédiatement consulter et coordonner sur la détermination des limites de l'espace aérien qui peuvent être traversés par les avions de ces deux pays suite à l'incident de l'expulsion de l'avion C-130 Hercules de la Malaisie par deux avions de guerre F-16 de TNI AU sur Natuna le samedi 25 juin. Cette expulsion devait être faite parce que l'avion Hercules des forces aériennes de la Malaisie avec le numéro TUDM-1230 détecter les radars de la TNI AU, à savoir l'unité de radar 212 de Ranai et l'unité de radar 213 Tanjung Pinang, passe l'espace aérien de Natuna sans autorisation. Wiko Sofyan a expliqué que l'expulsion avait reçu une réponse au gouvernement malaisien. Selon eux, son avion n'a pas violé l'espace aérien de l'Indonésie au-dessous de Natuna. Il a souligné, basé sur les différences de ce point de vue, il est temps pour les deux pays pour mener des consultations et des discussions sur le couloir des limites de l'espace aérien qui permet les avions des deux pays de passer sur Natuna. Le gouvernement indonésien va construire l'observatoire sur le mont Timau, la région Kupang en province de Nusa Tenggara Est, pour remplacer l'observatoire de Bosca à Lembang Japawest qui a 90 ans. L'observatoire sur le mont Timau sera le plus grand en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le chef des relations publiques du gouvernement de région Kupang, M. Stefanos Baha, à Ulamasi, capitale de Kupang, mardi. L'Institut national de l'aéronautique et de l'espace évalue que le mont Timau au district Amphuang central est très stratégique comme l'emplacement de l'observation de l'espace, tandis que Lembang est déjà inadéquat parce que l'emplacement du bâtiment et l'environnement entourant sont déjà si denses. Il a expliqué que l'observatoire commence à construire en 2017 avec des fonds de milliards de rupiah et devrait être achevé en 2019. L'observatoire, qui peut être utilisé pendant 100 ans pour soutenir les activités scientifiques et technologiques liées à la gouvernance recherche surya. L'observatoire, qui peut être utilisé pendant 100 ans pour soutenir les activités scientifiques et technologiques. L'observatoire a déclaré Stephen Baha a été construit en 2017 avec des milliards et devrait être achevé en 2019. L'observatoire peut être utilisé pendant 100 ans pour soutenir les activités scientifiques et technologiques. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La Turquie et l'Israël rétablissent des relations ». La Turquie et l'Israël rétablissent les relations bilatérales avec la signature de l'accord de rétablissement au ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Feridun Sinir Lioglu, à Ankara, et le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Dargold, à Jérusalem le mardi 28 juin. La signature est le début du rétablissement des relations après la disharmonieuse pendant 6 ans. Le chef du gouvernement turc, le premier ministre Binali Yildirim et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont annoncé le plan de rétablissement des relations le lundi 28 juin. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, espère cet accord pour créer la paix dans la région. Concernant l'accord de rétablissement des relations, la Turquie propose 3 conditions. Entre autres, la levée du blocus sur Gaza. Mais dans cet accord, la fermeture des eaux de Gaza est encore en vigueur. Mais l'Israël a donné l'accès à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza par les portes israéliennes. Le groupe Hamas qui contrôle la bande de Gaza remercie à la Turquie qui insiste l'Israël à lever le blocus du territoire palestinien. L'autre condition proposée par la Turquie est l'excuse présentée par l'Israël sur l'incident du navire d'aide humanitaire Mavi Marmara et le paiement d'une compensation d'un montant de 20 millions de dollars américains pour les victimes. Dans le cadre de l'accord, la Turquie peut envoyer l'aide humanitaire et des produits non militaires dans la bande de Gaza et réaliser des projets tels que la construction d'hôpitaux et de logements. Secrètement, les deux pays ont négocié le rétablissement des relations au cours des 6 derniers mois. Depuis 2013, les deux pays ont amélioré les relations commerciales et touristiques. Le raid du navire Mavi Marmara déclenche une sérieuse dégradation des relations entre l'Israël et la Turquie. La négociation de haut niveau a été faite quand le premier ministre Netanyahu a rencontré le ministre américain des Affaires étrangères John Kerry à Rome, quand les responsables turcs et israéliens se sont réunis pour finaliser la transaction. Dans une rencontre avec Kerry, le premier ministre Netanyahu a déclaré que cet accord était une étape importante et a des implications sur l'économie de l'État juif. Entre autres, on est d'accord sur la vente de gaz en Méditerranée et John Kerry a salué cette initiative. Le premier ministre turc Yildirim a signalé que les deux pays vont bientôt envoyer un diplomate dans 1 ou bien 2 semaines. Concernant l'accord de rétablissement des relations, il y a l'espoir de la création d'une région plus stable. Nous pourrions être suspects parce que l'Israël ne répond pas à l'une des exigences pour libérer le blocage dans les eaux de Gaza. Mais au moins, la bande de Gaza n'est plus isolée parce que la Turquie peut donner l'approvisionnement à Gaza. Il n'est pas facile, mais il y a déjà une première étape. Comme compiler un puzzle, morceau par morceau sont arrangés pour créer la région du Moyen-Orient pacifiquement. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Cinquième longtemps, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec la mort d'Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani était un homme d'État et un homme politique en Indonésie qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie en 1956-1957. Ruslan Abdul Ghani, appelé familièrement Cak Rus, est mort à Jakarta le 29 juin 2005. Au cours de sa vie, Ruslan a servi en tant que secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en 1954-1956. Un an plus tard, il est devenu le secrétaire général de la Conférence afro-asiatique de Bandung en 1955. Après le poste de ministre des Affaires étrangères, il est devenu le ministre de l'Information en 1962 à 1966 et vice-premier ministre en 1966-1967. Après la présidence à Sanger de Sukarno à Suharto, Ruslan est cru d'être ambassadeur de l'Indonésie auprès des Nations Unies 1967-1971 et a servi comme président de l'équipe consultative présidentielle sur Pancasila pendant 20 ans depuis 1978. L'autre information est sur la journée nationale de la famille et la journée de la planification familiale. Le 29 juin est désigné comme la journée nationale de la famille, un jour contenant une valeur historique car il a marqué le début du jour de la résurrection de sensibilisation de la femme indonésienne à se mettre en place vers les petites familles par le biais de la planification familiale. Aujourd'hui, il est le pic de cristallisation de l'esprit des combattants de la planification familiale de renforcer et d'élargir les programmes de planification familiale. Au fil du temps, les programmes de planification familiale se développent rapidement et changent des programmes de planification familiale à un mouvement de la société stable et montrent des résultats concrets. Ces résultats concrets sont sous la forme de l'augmentation de petites familles heureuses et prospères. Sur la base de ce fait, donc, le 29 juin est désigné comme la Journée nationale de la famille qui coïncide avec la date du début du mouvement de la planification familiale nationale en 1960. La Journée nationale de la famille a été déclarée à Lampung le 29 juin 1993 par le président Suharto. En outre, la Journée nationale de la famille est célébrée chaque année. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Assemblage de Myre et d'Atlantis le 29 juin 1995. 20 ans après la rencontre entre Apollo et des Soyouz, la navette spatiale américaine Atlantis s'arrime à la station russe Myre. Les deux commandants, Vladimir Dezhurov et Robert Hood Gibson, s'échangent une poignée de main historique à 395 km au-dessus de la Terre. 10 astronautes vivront ensemble à bord de la station jusqu'au 4 juillet de la même année. Cette rencontre marque le début de la collaboration spatiale internationale et de la construction d'une station commune dénommée Alpha. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs de quatre coins du monde, bonsoir. Voici donc la mise au point sur l'environnement ayant pour le titre « La conservation du Kalawa Kaskerong est concentrée à Kalimantan Ouest ». Les amateurs de Kalawa Kaskerong verront directement l'habitat original et l'activité des oiseaux de l'île de Kalimantan. Le nom scientifique de l'oiseau est appelé Bucero rhinoplax vigil, sera conservé dans la zone de Palo, Sambas ou Sintang. Ces nouvelles ont été transmises par un membre du Parlement indonésien d'origine de la circonscription électorale de l'Ouest de Kalimantan, Daniel Johan, vendredi dernier à Pontianak. Selon Daniel, cette conservation de Kalawa Kaskerong est la première en Indonésie. Pourquoi la conservation de Kalawa Kaskerong s'est efforcée? Le Kalawa Kaskerong est inclus dans les grands oiseaux qui vivent dans la péninsule Malaise, Sumatra et Kalimantan. Sa marque est un grand bec en forme de corne de vache, mais sans le cercle. Habituellement, son bec a la couleur claire. Cet oiseau est également devenu la mascotte de province de Kalimantan occidentale et inclus dans ce type de faune protégée par la loi. Les Kalawa casquerons sont maintenant rares d'être trouvés dans leur habitat naturel en raison de braconnage pour le commerce sur le marché noir. Daniel Johan expliquait, à ce jour, la zone de conservation la plus appropriée est à Palo Sambas. Là-bas, il existe déjà la zone forestière protégée depuis longtemps. Mais il a également préparé Sintang comme une alternative. Selon lui, en Indonésie, c'est peut-être la première dans l'histoire de Kalawa casquerons préservés. Le budget d'État pour la conservation de ces oiseaux est déjà inclus dans le budget de l'État de Saint-Jumang sous le ministère de l'Environnement et des Forêts. Daniel Johan espère, la fin de cette année, cette zone de conservation peut être réalisée et inaugurée. En effet, l'île de Kalimantan n'a pas seulement de centre d'élevage d'orang-outan, mais aussi aura le centre d'élevage du Kalawa casquerons. Chers amis, c'était la mise au point sur l'environnement.
Le président indonésien Joko Widodo ouvrira le congrès de l'Association des cours concessionnels asiatiques 2016 qui aura lieu à Bali en début août 2016, a déclaré le président de la cour concessionnelle, M. Arif Hidayat, lundi à Jakarta. Selon lui, le thème du congrès de l'Association des cours concessionnels asiatiques et l'institution similaire en Asie, tenu en août 2016, est la promotion et la protection des droits concessionnels des citoyens. À cette occasion, on va élire le nouvel président de l'association. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré mardi à Jakarta que le gouvernement indonésien, à travers le ministère indonésien de la Défense, a convenu avec le ministère de la Défense des Philippines dans la manipulation de l'équipage en otage des citoyens indonésiens aux Philippines. Selon la ministre Retno Marsudi, les deux ministres de la Défense se sont réunis dimanche pour accorder la coopération de sauvetage des otages et de prévention de la prise d'otages à l'avenir.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan.
La ministre indonésienne de la Défense a mené une réunion avec son homologue des Philippines le 26 juin 2016. La visite du ministre de la Défense était essentiellement à intensifier la coopération de la Défense pour sauvegarder la navigation des navires de l'Indonésie et des Philippines passant sur les eaux de Sulu. Les deux coopérations accordées sont actuellement de sauver les otages et la coopération pour empêcher la prise d'otages à l'avenir. Selon Mme Retno Marsudi, le gouvernement indonésien priorise la sécurité des citoyens indonésiens qui ont été pris en otage dans les eaux philippines, ainsi que le gouvernement indonésien continue d'établir une communication avec les différentes parties pour assurer la sécurité des otages et les libérer. Le membre de la Commission 1 du Parlement, M. Sharif Hassan, a déclaré récemment à Jakarta, a encouragé le gouvernement indonésien d'être plus assertif dans le traitement des cas de ressortissants indonésiens en otage par le groupe terroriste Abu Sayyaf dans les eaux philippines il y a quelque temps. Selon lui, outre pour sauver les citoyens indonésiens, le gouvernement doit améliorer des efforts pour sécuriser les eaux territoriales et de rappeler à la société civile d'être prudent dans les eaux qui sont sujettes en otage.
Saya pikir Indonesia harus lebih tegas. Wacana untuk operasi bersama itu harus jangan hanya wacana.
Je pense que l'Indonésie doit être plus assertif. Le plan de l'opération conjointe doit être clarifié. La deuxième, l'opération dans nos eaux doit encore être améliorée. Et il faut rappeler aux citoyens qui voyagent dans cette région, là-bas n'est pas propice, y compris une entreprise. Selon Sharif Hassan, il soutient si le gouvernement va choisir de suspendre la livraison des marchandises logistiques à travers les eaux de cette région. Ceci pour assurer la sécurité de la vie des citoyens indonésiens causée par la menace d'otages et les enlèvements commis par des terroristes. Il a également rappelé que le gouvernement indonésien n'a pas choisi la voie de compromis dans la résolution de l'otage. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le chef de service de l'information de l'armée aérienne indonésienne, ou TNI AU, le général de brigade aérienne, M. Wiko Sofyan, a déclaré mardi que le gouvernement de l'Indonésie et la Malaisie devraient immédiatement consulter et coordonner sur la détermination des limites de l'espace aérien qui peuvent être traversés par les avions de ces deux pays suite à l'incident de l'expulsion de l'avion C-130 Hercules de la Malaisie par deux avions de guerre F-16 de TNI AU sur Natuna le samedi 25 juin. Cette expulsion devait être faite parce que l'avion Hercules des forces aériennes de la Malaisie, avec le numéro TUDM-1230, détectait les radars de la TNI AU, à savoir l'unité de radar 212 de Ranai et l'unité de radar 213 Tanjung Pinang, passe l'espace aérien de Natuna sans autorisation. Wiko Sofyan a expliqué que l'expulsion avait reçu une réponse au gouvernement malaisien. Selon eux, son avion n'a pas violé l'espace aérien de l'Indonésie au-dessous de Natuna. Il a souligné, basé sur les différences de ce point de vue, il est temps pour les deux pays pour mener des consultations et des discussions sur le couloir des limites de l'espace aérien qui permet les avions des deux pays de passer sur Natuna. Le gouvernement indonésien va construire l'observatoire sur le mont Timau, la région Kupang en province de Nusa Tenggara Est, pour remplacer l'observatoire de Bosca à Lembang Japawest qui a 90 ans. L'observatoire sur le mont Timau sera le plus grand en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le chef des relations publiques du gouvernement de région Kupang, M. Stefanos Baha, à Ulamasi, capitale de Kupang, mardi. L'Institut national de l'aéronautique et de l'espace évalue que le mont Timau au district Amphuang central est très stratégique comme l'emplacement de l'observation de l'espace, tandis que Lembang est déjà inadéquat parce que l'emplacement du bâtiment et l'environnement entourant sont déjà si denses. Il a expliqué que l'observatoire commence à construire en 2017 avec des fonds de milliards de rupiah et devrait être achevé en 2019. L'observatoire, qui peut être utilisé pendant 100 ans pour soutenir les activités scientifiques et technologiques liées à la gouvernance recherche surya. L'observatoire qui peut être utilisé pendant 100 ans peut soutenir les activités scientifiques et technologiques. L'observatoire a déclaré Stephen Baha a été construit en 2017 avec des milliards et devrait être achevé en 2019. L'observatoire peut être utilisé pendant 100 ans pour soutenir les activités scientifiques et technologiques. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la radio publique d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie en paix en chanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la boucle suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous rendre à la cascade Temam. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI, soit sur OnCourt, soit vous pouvez nous écouter sur www.vo.co.id. Chers auditeurs, l'Indonésie est un pays archipélagique. Chaque île en Indonésie a sa propre beauté, comme l'île de Sumatra qui possède beaucoup de beauté naturelle qui ont le potentiel d'attirer les touristes locaux et étrangers. L'une des régions qui a de nombreuses destinations touristiques est la province du sud de Sumatra. À cette province, beaucoup de destinations touristiques montagneuses qui peuvent être visitées. En outre, le tourisme de la cascade n'est pas moins beau. Donc, la cascade est l'une des destinations touristiques excellentes du sud de Sumatra. L'une d'elles est la cascade Temam. La cascade Temam a la forme allongée et ressemble à un rideau géant. Par conséquent, beaucoup de personnes appellent cette cascade comme une miniature de la cascade de Niagara. L'écoulement de cette cascade provient du débit de la rivière de Temam. L'eau de la rivière Temam est toujours très propre et exempte des ordures. Par conséquent, ne vous inquiétez pas pour jouer l'eau dans cette zone de cascade. La cascade Temam est différente de la cascade en général qui est trouvée en Indonésie. La cascade se forme naturellement. La cascade de Temam a une hauteur de 12 mètres et une largeur de 25 mètres, entourée de rochers naturels et les arbres avec une superbe nature bien préservée. La cascade Temam située dans le village Rahma en ville Bukelinggau, Sumatra du Sud. La distance du centre-ville de Lubuk Linggau est environ 11 km. La distance à l'aide de véhicules motorisés est d'environ 30 minutes. Ce site touristique situé à environ 50 mètres de la route qui relie le sous-district Air Temam et celui de Rahma. Pour accéder en ville de Lubuk Linggau, vous nécessitez le temps d'environ 6h30 en voiture de la ville de Padang. La cascade Temam a été bien gérée par la municipalité Lubuk Linggau. Les installations dans cette zone étaient très complètes, comme les installations de repos, les restaurants et des toilettes. Pour l'hébergement, on peut être le trouver dans Lubuk Linggau, qui est la ville la plus proche de la cascade Temam. Si vous êtes dans la province du sud de Sumatra, ne pas oublier de prendre le temps de visiter cette destination touristique. Thank you. chers auditrices et auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La cascade MAM ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Vous allez maintenant écouter le programme Apprendre l'indonésien. C'est un programme pour vous faire connaître des termes indonésiens et pour vous enseigner comment les utiliser dans la conversation. Notre sujet aujourd'hui est persiapan hari raya lebaran ou en français préparation pour la fête lebaran ou l'Eid al-Fitr. Comme toujours, je vais vous présenter les mots de vocabulaire et quelques expressions utilisées en relation avec notre sujet aujourd'hui. Persiapan. Persiapan. En français, préparation. Hari Raya Lebaran. Hari Raya Lebaran. En français, la fête Lebaran ou l'Eid al-Fitr. Masih. Masih. En français, encore. Sembilan hari. Sembilan hari. En français, neuf jours. Hari ini. Hari ini, en français, aujourd'hui. Pasar, pasar, en français, marché. Membeli, membeli, en français, acheter. Bahan, 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 en français, ingrédient. Membuat, membuat, en français, faire. Kue. Kue, en français, gâteau. Keju, keju, en français, fromage. Tepung terigu, en français, farine de blé. Mentega, mentega, en français, beurre. Telur, telur, en français, œuf. Gula, gula, en français, sucre. Nanas, nanas, en français, ananas. Kacang, kacang, en français, haricot. Minyak goreng, en français, huile de cuisson. Kacang goreng. Kacang goreng, en français, arachide grillé. Setiap tahun, en français, chaque année. Suka, suka, en français, aimer. Buatan, buatan, en français, fait par. Berbelanja. Berbelanja. En français, faire du shopping. Chers amis, écoutez maintenant le dialogue entre Mary A et Nita B au bureau. A. Lebaran masih 9 hari lagi. Lebaran masih 9 hari lagi. En français, Lebaran ou l'Eid al-Fitr est encore 9 jours. Bagaimana persiapan lebaran kamu? Bagaimana persiapan lebaran kamu? En français, comment est la préparation votre Eid al-Fitr? B. Saya hari ini ke pasar membeli bahan-bahan untuk membuat kue. Saya hari ini mau ke pasar membeli bahan-bahan untuk membuat kue. En français, aujourd'hui, je vais au marché pour acheter les ingrédients pour faire les gâteaux. Keju, keju, en français, fromage, tepung terigu, tepung terigu, en français, farine de blé, mentega, mentega, en français, beurre, telur, telur, en français, œuf, gula, gula, en français, sucre, nanas, nanas, en français, ananas, kacang, kacang, en français, haricot, mentega, mentega, en français, beurre, minyak goreng, minyak goreng, en français, huile de cuisson. A. Kamu mau membuat kue apa? A. Kamu mau membuat kue apa? En français, quel gâteau que vous voulez faire? B. Saya mau buat kue keju dan kue nanas. Saya mau buat kue keju dan kue nanas. En français, je veux faire les gâteaux au fromage et les gâteaux d'ananas. Selain itu, saya mau membuat kacang goreng. Selain itu, saya mau membuat kacang goreng. En français, en outre, je veux faire des arachides grillées. Apakah kamu selalu membuat kue lebaran sendiri? Apakah kamu selalu membuat kue lebaran sendiri? En français, faites-vous toujours le gâteau d'Eid al-Fitr vous-même? B. Ya, setiap tahun, setiap lebaran, saya selalu membuat kue. Ya, setiap tahun, setiap lebaran, saya selalu membuat kue. En français, oui, chaque année, chaque Eid al-Fitr, je fais toujours le gâteau. Keluarga saya sangat suka kue buatan saya. Keluarga saya sangat suka kue buatan saya. En français, ma famille aime vraiment mon gâteau. A. Ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. En français, allons-y. Saya juga mau berbelanja. Saya juga mau berbelanja. En français, je veux aussi faire des achats.
Chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans 80 du monde, voici le magazine de musique, édition de mercredi. Cette rubrique vous présente de telle ou telle musique, ainsi que musiciens et chanteurs ou chanteuses. Pour ce soir, nous voulons introduire le chanteur Dedi Dores. Chers amis, avant de continuer notre rencontre, allez écouter la chanson Hilangnya Seorang Gadis, chantée par Dedi Dores. Bonne écoute.
dalam suatu masa dianya tersenyum melambaikan tangannya. Ku sayangi dia dalam segalanya, tapi kini dia pergi entah kemana. Inilah kisah sedih yang aku alami. Hilangnya gadis suci yang aku kasihi dalam hati, dalam hati, dalam hati. Dianya tersenyum melambaikan tangannya. Ku sayangi dia dalam segalanya,
chers amis, de Didores, il est né à la ville de Surabaya, Java de l'Est, au 28 novembre 1950. Mais, depuis son petit, de Didores est resté à Bandung, en province de Java de l'Ouest. De Didores est connu comme musicien ainsi que composeur. Surtout, il aime le genre de musique de rock. C'est pourquoi il rejoint dans le groupe rock Freedom of Rhapsodia avec les pistes célèbres Hilangnya Seorang Gadis, Hancurnya Sebuah Harapan, et Kasih Sayang. En 1971, De Didores rejoint dans le groupe de rock qui est très connu à cette époque-là, God Bless. Et vous avez, mais la vie de De Didores a changé quand la compagnie musicale JK Record aux années 80 lui encourage de créer ses œuvres pour les jeunes chanteurs et chanteuses. Mais ici, à la tendance en la musique pop. Bon, chers amis, avant de continuer, écoutez encore la troisième chanson de Dedy Dores intitulée Cinta Tak Berbatas Waktu. Chers amis, au début de 1990 jusqu'à 1999, Dedy Dores a décidé de produire la musique lui-même. Le public plus tard lui connaît comme le grand producteur. Son nom est de plus en plus populaire lorsqu'il a fait en collaboration avec les jeunes chanteuses Nicky Ardila durant 1996 jusqu'à 1999. Et puis, il y a les jeunes Narva Ubah, Annie Carrera, Mayang Sari, ainsi que Poppy Mercury. Mais malheureusement, en 2016, au mois de mai, Dedy Dores est décédé à cause de la maladie de cardiaque. Chers amis, c'était le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique, édition de mercredi. Et avant de terminer, écoutez encore deux dernières chansons de Dedy Dores intitulées Gambaran Dirimu. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.